Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Brunet, aujourd'hui accompagné de Marceau Truffaut, et vous écoutez un nouvel épisode de Sans Titre. Sans Titre est né de l'envie de partager la vie réelle des créateurs et des créatrices. Pour cela, Marceau et moi rencontrons des artistes et leur demandons simplement de raconter ce métier, avec ses réalités et ses défis, loin du romantisme que l'on peut s'en faire. Notre objectif ici est de vous donner une meilleure compréhension de la vie d'artiste, de ce qui se cache derrière une œuvre d'art, mettre en avant la condition des créateurs et des créatrices d'aujourd'hui. Sans Titre est disponible en podcast sur Spotify et toutes les bonnes plateformes. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Brack. Bonne écoute.
Alors, Sarah, bonjour. Quelques mots pour te situer brièvement auprès de nos auditeurs. Tu es photographe. Ton travail est décrit comme photosensible. Tu y développes un regard pictural et nostalgique sur le vivant et ce qui l'entoure. Lauréate 2022 du programme de mentorat lancé par l'association Les Filles de la Photo, tu vis et travailles à Paris. Dans le cadre de ce mentorat, tu es accompagné par Valérie Cazin de la Galerie Binôme et Marie Moulin. Tu y développes actuellement le projet photographique In Between, qui s'attache à mettre en dialogue des photos de forêts et d'algues et des photos d'incendie. Est-ce que tu es d'accord avec ça, déjà, pour ce qui est d'aujourd'hui?
Alors, je pense que je ne vous ai pas envoyé la bonne bio.
Ah, c'est fort probable. Mais justement, c'est le moment de corriger ou de préciser des choses.
Donc, le projet In Between a évolué et s'intitule Les courants de lumière.
D'accord.
Et sinon, c'est à peu près ça, sauf qu'aujourd'hui, je mets l'accent sur, j'illustre des études scientifiques comme des contes biologiques.
D'accord.
Pour vulgariser des sujets autour des algues et du vivant végétal.
Ok. Très bien. Précision faite, comme j'ai pas trouvé des masses d'infos sur ta formation, est-ce que tu peux nous parler un peu déjà de par où t'es passé dans tes études et aussi quel était un peu, est-ce que t'avais depuis longtemps un plan, je veux travailler là-dedans, etc., un plan d'arrivée et comment ça s'est articulé avec ta formation ou est-ce que ça s'est fait de manière un peu plus aléatoire, mais
organique.
J'avais pour idée d'avoir un travail qui tourne autour de l'image, sans savoir précisément où je voulais aller. J'ai fait 5 années à Maître de Penningen, à l'ESSEC de Penningen. Donc j'ai eu un diplôme de direction artistique, une école qui m'a formée à toucher du doigt les métiers de l'image sans me spécialiser dans quelque chose.
Dans un médium particulier.
Exactement. Et suite à mes 5 années, j'ai eu mon projet de fin d'études qui m'a permis d'explorer des techniques qui me tenaient à cœur. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur la photographie en découpant, en collant, en cousant, et je me suis dit que ça m'intéressait de pas tant la technique photographique, mais de pouvoir intervenir sur des tirages pour raconter quelque chose. Et j'ai décidé de partir à Berlin suite à ça pour me laisser un temps d'expérimentation possible pendant une année avec comme des un peu des études secondaires et de pouvoir avoir tout le loisir d'expérimenter, de trouver une technique qui m'est propre. Voilà.
Alors, donc, tu t'es donné une année de résidence en sortant de l'école. Mmh. Et c'était en quelle année ?
En 2009.
2009.
Et j'ai choisi Berlin parce que ça me permettait d'avoir 3 boulots en même temps, mais d'avoir un appartement assez grand parce que la vie était pas très chère à l'époque. Mmh. C'était l'anniversaire de la chute du mur, donc il y avait une effervescence artistique et culturelle dans cette ville à ce moment-là, et avec un boulot à mi-temps, je pouvais à la fois vivre et développer ces recherches.
D'accord.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je me suis peut-être un peu perdue.
Complètement. Et du coup, là, cette année-là à Berlin, elle est plus dans le cadre d'études.
Non, c'est vraiment...
Là, tu es déjà diplômée, enfin, tu as déjà terminé ton parcours officiel, entre guillemets, de formation. Quand tu sors, enfin, quand tu fais ça, comment tu vis, grosso modo? Est-ce que tu t'attendais à vivre ça? Enfin, c'était ton plan déjà, en terminant tes études, de donner cette année-là? Ou c'est tombé parce que tu pensais peut-être travailler différemment tout de suite et puis...
En fait, j'ai eu l'opportunité de travailler, de monter un magazine chez Lagardère à la sortie de mes études. Et je me suis vraiment posé sincèrement la question en me disant, est-ce que toi qui rêves de faire un métier créatif, est-ce que tu veux vraiment te lancer là-dedans ou au contraire te laisser la chance de découvrir des choses, de te tromper, de prendre une année pour toi et quitte à revenir en arrière, etc. Ouais. Et donc, j'ai fait ce choix-là à ce moment-là.
D'accord.
Et qu'est-ce qui vient après cette année-là à Berlin ?
Beaucoup d'embûches. qu'est-ce qui vient ? C'est le moment où je commençais à trouver une écriture qui m'intéressait, une technique qui m'intéressait. Je fabriquais des maquettes en papier que je photographiais. Beaucoup de collages, beaucoup d'interventions à la peinture sur les images, sur des thèmes qui n'avaient pas vraiment de lien entre eux. Donc, c'était plutôt... je cherchais encore des sujets d'intérêt. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était quand même assez énergivore d'avoir beaucoup de métiers en même temps pour y gagner sa vie et payer mes maquettes et qu'il y avait un petit côté schizophrène à tout ça parce que j'avais l'impression d'être dans quatre rôles à la fois. Et donc je me suis dit, en fait, cette technique, j'ai beaucoup de plaisir à travailler comme ça. Est-ce que j'arriverais pas à intégrer des produits dans mes maquettes en papier et trouver un agent qui puisse développer mon travail de commande, qui reste lié à la technique que j'apprécie et que j'aime développer et qui pourrait me permettre de gagner ma vie. Donc à ce moment-là, je suis allée frapper, j'ai harcelé tous les agents de Paris et j'ai eu une place chez Renate Gallois-Montbrun qui était très courageuse de me prendre à ce moment-là parce que je commençais et elle m'a aidée à me développer, à trouver ma place. Et donc j'ai vraiment travaillé dans le sens de me faire un book. De pouvoir avoir un book complet, donc ça m'a pris pas mal de temps. Et en parallèle de ça, j'essayais quand même de garder un lien avec mes projets personnels. Mmh. Donc c'est comme si j'avais deux activités parallèles, une activité vraiment commerciale avec cette technique et une activité artistique, mais j'avais pas le temps de rentrer dans des thématiques. Je faisais juste de l'image pour garder le lien avec cette technique sans produit. Et la passerelle entre ces deux activités, c'était le vivant végétal et la matière végétale.
D'accord.
Je me suis...
Ouais. Je t'en prie.
Non, je sais pas si c'est très clair. Parce
c'est
que...
très très clair. Ouais. Pas la peine de poser la question. Okay. C'est très clair. Est-ce que tu peux nous expliquer... Et alors, on a déjà eu le tour avec François Fontaine, donc du coup, on a à nouveau l'occasion
de
poser la question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une agence et comment se passe ta collaboration avec cette agence ou l'agent après,
Alors, ça dépend évidemment des agences. Donc, en fonction des expériences, c'est très différent. Par exemple, chez Renate Gallois-Montbrun, c'était... une grande famille. Renate, elle a, je pense qu'elle a 80 ans maintenant. Elle est agente Sarah Moon. C'était la grande famille. On se retrouvait, toute l'équipe se retrouvait régulièrement. On déjeunait souvent ensemble. Elle m'accompagnait à la fois dans les moments où j'avais pas du tout de travail et on travaillait dans le sens de trouver du travail et de réfléchir ensemble à un développement, aux qualités, aux singularités à mettre en avant, etc. À côté de ça, j'ai travaillé avec d'autres agents qui étaient moins présents dans les moments où pas du tout présents dans les moments où il n'y avait pas de travail, qui peuvent être des longues périodes, et très présent dans les moments de production. Donc après, ça dépend beaucoup de...
Mais dans le workflow, comment ils te trouvent
On travaille sur un book,
ouais.
En fonction de leur, leur client.
Mmh.
Eux voient dans mon travail ce qu'ils veulent mettre en avant dans l'idée d'aller voir tel ou tel client. Et après, ceux qui font les rendez-vous et qui sont censés apporter du travail.
D'accord. Ils prennent combien ?
25%.
Ben voilà, on sait comment ça marche en agence.
Et la complexité, si je peux, c'est de... Ouais. D'être dans le même registre, de vouloir aller au même endroit, vers les mêmes clients et enfin, d'avoir les mêmes objectifs.
Oui, entre toi et l'agent.
Ouais. Et donc, ça demande un petit temps d'essai pour se rendre compte d'une erreur de casting.
Ouais, ouais. Pour les deux parties, d'ailleurs.
Exactement. Mmh.
Toi, tu as travaillé qu'avec une agence comme ça ou tu as eu aussi...
Plusieurs.
Ouais.
Ouais, je compte... J'ai assez des doigts d'une main. 4 agents.
D'accord.
En 14 ans.
Ok. Bon.
Et aujourd'hui, pour la première fois, je n'ai pas d'agent.
J'ai plus d'agent.
Et je prends le temps justement de chercher la bonne personne, de rencontrer beaucoup de personnes, de ne pas me précipiter. Et bon.
D'accord.
Ma question qui vient, c'est du coup, donc tu fais tout ça. Est-ce que tu t'attendais à vivre ça quand tu étais en études, etc. Ou plutôt, est-ce que tu as l'impression d'avoir tout découvert, la relation avec les agents, le travail de commande, la constitution d'un portfolio, la rencontre entre des clients, toi et l'agent, etc. Tout ce mécanisme-là. Est-ce que. T'as eu des prémices de ça dans tes formations, à travers tes contacts, ou est-ce que c'est de la découverte sur le terrain ?
Je ne savais pas ce que c'était qu'un agent. Je ne savais pas comment où trouver des agents. C'était tout un concept pour moi. Et surtout, avant de commencer mon année à Berlin, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc c'est pas une porte que j'avais ouverte plus tôt. J'avais pas d'attente. Et c'est après cette année de recherche que je me suis dit que ce serait une bonne idée d'aller dans cette direction. Et donc là, à tâtons, je me suis renseignée, j'ai compris comment ça fonctionnait. Mm-hmm. J'essaie encore de comprendre parce que j'ai pas encore toutes les ficelles, mais voilà, c'est vraiment du jour après jour.
Ok.
Est-ce que peut-être tu pourrais, si t'es d'accord, Marceau, qu'on parle du prix. Défi de la photo, du mentorat. Nous, on s'est rencontrés une fois parce que la personne qui te mentore, enfin, une des deux personnes, je ne savais pas qu'il y en avait deux tout à l'heure, une des deux personnes qui te mentore est ma galeriste, Valérie Cazin. Et peut-être tu pourrais, si tu veux bien, nous mettre un petit peu de contexte, d'abord sur ce que sont les filles de la photo. Et ensuite, ce que toi, tu gagnes, entre guillemets, là-dedans.
Oui. Les filles de la photo ou le mentorat ? Parce que les filles de la photo, c'est une association qui soutient les photographes. Et le mentorat a été créé il y a 4 ans. Enfin, c'est la 2e édition. Ça se passe sur 15 mois. Il y a 5 lauréates photographes qui sont accompagnées pendant 15 mois par 2 marraines chacune. Et l'idée, c'est de soutenir les femmes photographes avec ce sous-titre qui est accélérateur de talent.
D'accord. Et toi, ça fait combien de... Du coup, tu as commencé ça il y a combien de temps ?
Octobre, mois d'octobre.
Ok, ça fait pas trop longtemps, tu as encore du temps.
Ouais. Mais ça se rapproche. c'est tellement confortable que tu vois.
Et c'est quoi le prix ? C'est que t'es accompagné par... Il y a de l'argent.
Il n'y a pas
d'argent, donc c'est juste à ta deux mentors qui sont là pour t'accompagner. Et après, ça devient quoi ? Est-ce qu'il y a une restitution, quelque chose ?
Alors, donc, je suis accompagnée à raison d'une fois par mois par mes marraines. On se réunit toutes les trois une fois par mois pendant 15 mois. Et en effet, il y a une restitution pendant Photo Saint-Germain à la Galerie des Femmes, enfin l'Espace des Femmes rue Jacob. et on aura une exposition collective avec les quatre autres lauréates du mentorat.
Dans ce contexte de mentorat, et bon, ça fait aussi le lien, j'imagine, avec les agents, etc., sur la première partie, en tout cas la première quinzaine d'années de ta pratique artistique, parce qu'en fait, c'est de l'art aussi, c'était juste de l'art appliqué, quelque part.
Oui,
la différence fondamentale, c'est ça, c'est la relation à la commande, je pense.
Oui, c'est... Bon, après, il y a quand même... fais des compromis parce que tu as quand même un produit à vendre.
Oui, bien sûr.
Mais oui, tu as quand même une écriture qui t'est propre et...
Pardon,
j'ai perdu le fil.
Non, tu disais que tu as quand même une écriture qui t'est propre, etc. Mais ma question, c'est... tu as un regard extérieur qui t'est donné sur ton travail, que ce soit par l'agent, dans ce contexte-là, où là, c'est ce que tu recherches aussi, c'est ce qui est proposé avec l'idée du mentorat, aujourd'hui, avec les filles de la photo. Comment tu te situes par rapport à ce regard extérieur-là, dans ton boulot?
Attends, je vais préciser un petit peu. Parce que c'est quand même une grande chance d'avoir des gens. Après les études, enfin moi je parle pour moi, hein, mais d'avoir des gens après les études tous les mois
qui c'est sont le
là,
rêve.
Non mais c'est le rêve absolument,
c'est le rêve,
qui sont là pour juste regarder ton taf et peut-être t'orienter, t'accompagner,
et t'écouter pendant voilà. des heures et t'orienter
et ça c'est quand même, enfin c'est ça a pas de prix, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment comprendre, mais quand on sort de l'école, qu'on est sur des métiers créatifs, et à un moment, on est seul. Tout à l'heure, on en parlait avec Alain Delorme, il a dit la solitude, comme ça,
mais c'est ça.
Vraiment ça. C'est un saut dans le vide, et il n'y a plus personne. Et est-ce que j'ai bien précisé ta question là?
Tu l'as bien détaillé, ouais.
Ouais, désolé. du coup, toi alors, qu'est-ce que ça t'apporte, tout ça? Et quelle est l'importance de ce regard-là sur ton travail?
Alors déjà, d'avoir des... Déjà, mais... Justement le casting des deux marraines est parfait. Je pouvais pas mieux tomber parce que Valérie m'a aidée à faire exister toutes mes recherches qui étaient en sourdine pendant des années, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur des sujets personnels sans pouvoir les aboutir faute de temps, et donc elle a réussi à m'orienter et à me canaliser pour pouvoir finaliser une première série et vraiment trouver mon sujet et ce sur quoi je voulais travailler ces prochaines années. Et à côté de ça, j'ai Marie qui m'a permis de m'orienter vers les bonnes personnes dans le commercial, ce qui me manquait un petit peu parce que j'étais, à force de compromis, un peu perdue à lisser les images, à plus avoir vraiment mon identité. Donc en fait, dès le premier rendez-vous, dès les premières 10 minutes, j'avais l'impression que on m'avait enlevé une chape de plomb. Elles m'ont dit juste, sache que le travail artistique et le travail commercial sont compatibles. Et moi, j'avais toujours l'impression que...
De devoir faire un choix entre
les deux se desservaient, en fait. Quand j'arrivais en agence j'allais en rendez-vous pour une marque, on me disait, c'est très, très artistique, c'est très beau, mais ça voulait aussi dire, on ne te fera pas travailler.
Ouais.
Et d'être dans un environnement plus artistique, le fait de faire de la commande, c'est bon, comme tu fais de la commande, en fait, on ne te prend pas au sérieux. Ouais. Donc, elles ont réussi à légitimer mon travail à mes yeux. Et c'est... Donc, 10 premières minutes des 4 heures de réunion, et ça tous les mois, j'ai plein d'exemples, mais...
4 heures?
Ouais.
C'est longué quand même, un moment, 4 heures.
La dernière, c'était 4 heures, ouais.
Ouais. C'est bien, ça doit vraiment être très riche. Comme, est-ce qu'il y en a une des deux que tu préfères?
Évidemment. Non, c'est vraiment un bon trio.
Ouais,
c'est super.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment apparaît un projet, voilà, grosso modo.
pour la partie
peut-être personnelle. Peut-être tu peux aussi faire un distinguo, mais en tout cas, toi, qu'est-ce que tu fais? Comment apparaît un projet? Est-ce que tu as des méthodos derrière? Est-ce que tu as des réflexes un protocole créatif ou autre? Et peut-être que effectivement tu peux faire un distinguo entre le cadre de la commande et le cadre du boulot strictement personnel. Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce que les deux choses sont vraiment délimitées de manière très nette? Enfin, juste comment ça se passe? Le début d'une idée, le début de tout ça?
Alors, pour les projets personnels, c'est deux espaces-temps complètement différents, parce que la commande, ça doit se passer très vite. Et ce que je trouve assez agréable, en fait, d'ailleurs, d'avoir les deux dans ma vie, c'est de me dire que j'ai un temps long où je suis assez seule pour tous les projets personnels. Et pour les projets de commande, ça peut être un travail d'équipe où on est 10 sur un plateau, ça va très très vite, il faut faire beaucoup d'images. Et je trouve ça agréable d'avoir les deux tant que ça reste équilibré et qu'il n'y en a pas un qui prenne le pas sur l'autre. Donc il y a ce côté espace-temps qui est différent, et les projets personnels, ça peut prendre beaucoup de temps. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me touche. Mm-hmm. Donc là, pour le projet que je développe dans le cadre du mentorat, je m'intéressais aux algues et à la captation. Enfin, avant ça, je m'intéressais aux forêts. Ça m'a emmené vers les forêts d'algues, la captation de carbone. Et à force de lecture et d'écoute, un jour, j'écoutais un scientifique de la station biologique de Roscoff sur France Inter. Et il a dit juste une petite phrase. Il n'était pas du genre enthousiaste. Il a dit « Ah, il y a cet institut de microbiologie marine qui travaille sur une étude extraordinaire. » Et je me suis dit « Il faut absolument que je contacte cet institut. Mm-hmm. » Et le projet est né de ça. Mais après des mois de mails à des scientifiques sans réponse, de lecture, etc. Et donc là, j'ai commencé à travailler à partir des archives photographiques de ce chercheur. Mais ça a pris des mois d'écoute, de lecture. Et après, en termes de création, vraiment, journée d'atelier, j'ai une technique qui est la même pour le travail de commande et pour le travail personnel, qui est de faire des tests et de tout shooter avec mon téléphone pour être sûr de pas rentrer dans une pratique trop scolaire, en me disant il faut absolument que ce soit parfait du premier coup. Et en fait, le fait de shooter avec mon téléphone et de rien installer, j'ai l'impression d'avoir une liberté et de pouvoir tout bouger, tout changer, et souvent c'est d'ailleurs assez difficile de retrouver ce que j'ai aimé dans quand j'essaie de l'appliquer avec le bon éclairage, etc.
Oui, parce que là, ce que tu décris, c'est une période de test et d'essai-erreur, quoi. C'est ça.
Exactement.
Après, quoi qu'il arrive, c'est du brouillon, entre guillemets. Après, tu reprends ce que tu as aimé là-dedans et tu le shootes de manière plus établie,
technique.
Plus technique, etc.
Oui.
Ouais. Ok. Et donc, des fois, justement, il y a une galère sur j'arrive pas à retrouver.
À retrouver parce que je travaille beaucoup à l'encre. Je travaille sur des plaques de verre à l'encre sur mes images, donc souvent j'arrive pas à refaire les mêmes tâches, etc. Mais j'ai besoin de me dire, j'essaie des tonnes de choses pour voir comment je peux raconter au mieux le propos. Et sans me dire, comme j'ai installé une maquette pendant à peu près 2 heures, il faut vraiment que ce soit la bonne réponse parce que de la déconstruire, ça me fait mal au cœur, quoi.
Oui, oui. Et en tout cas, dans les deux champs d'application, et commande et personnel, on va dire, le processus est similaire, en tout cas, sur ces phases de test.
Oui, parce que j'ai toujours, en tout cas, une partie, quand j'ai une commande, une partie, ils disent mood board, mood board, souvent, c'est, on va récupérer des images à droite, à gauche d'autres photographes ou de son portfolio. Mais moi, j'aime bien pouvoir pour répondre le plus précisément à la demande, essayer de faire des maquettes et avec une lumière, ma lumière, mes couleurs, pour me rapprocher vraiment de la demande et du sujet, quoi. Et donc, dans ces cas-là, je travaille assez vite et de façon spontanée.
Ok. Comment tu fais avec tes influences? Comment tu... ton environnement créatif pour pas faire des redites peut-être de choses que tu aurais vues ou au contraire comment est-ce que tu t'inspires du travail des autres ou est-ce que tu essaies de t'en détacher un maximum? Tout à l'heure Alain nous expliquait que lui par exemple il coupait tout pour quand il était dans un projet pour au contraire pas être trop influencé.
Alors sur le travail de commande, je regarde beaucoup ce qui se fait parce que j'ai un travail qui est très pictural. Je suis assez loin de la netteté qu'on demande aujourd'hui pour du travail de commande. Donc en fait, je me fais souvent je me prends des refs pas pour la direction artistique, mais pour voir la lumière et essayer de me rapprocher un peu plus de ce qu'un client demande et de comme j'ai tendance naturellement à m'en éloigner pour essayer d'aller dans la bonne direction. Et pour tout le travail personnel, je regarde des tonnes d'images, surtout des artistes qui traitent des thématiques que j'aime, plus par amour de ces sujets, curiosité, pour l'émotion que ça me procure. Et je me dis, par exemple, parler de Léa et du processus d'Antotype, je me dis, ça me passionne, mais j'irai jamais là parce que c'est une technique qui est très bien gérée par Léa, par Anaïs Boudot. Et donc, je me dis, moi, je trouve ma place ailleurs, autant qu'une Manon Lourjouère qui va travailler sur les océans, le plancton. Je trouve son sable et la bioluminescence. Je me dis, ouais, c'est magique, j'adore. J'irai pas travailler la bioluminescence. Donc, plus par curiosité, admiration de ce travail, et de me dire, moi, ma place, elle est ailleurs, parce que ce travail-là, il est abouti, développé, magnifique. Voilà.
Tu penses que ça invalide que tu peux pas utiliser le même procédé qu'un autre artiste
C'est pas l'envie. En tout cas, je me dis, j'ai envie de trouver ma propre...
Mais Léa n'a pas inventé l'antotype.
Non, mais tu vois, j'ai découvert son travail à art, je me suis dit c'est magnifique. Je vois, enfin, j'aurais rien à apporter de personnel autour de ce procédé qui j'aurais pas de valeur ajoutée, tu vois. Voilà. Et ça me le fait pour énormément de travaux en me disant comme ce qui m'intéresse c'est surtout les sujets autour des forêts, des champignons. Des océans et je suis contente d'avoir de découvrir tous ces projets sans trop m'en rapprocher quoi.
Est-ce que tu peux nous raconter, est-ce que tu as un atelier?
Je travaille de chez moi.
Tu travailles de chez toi?
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter comment se déroule une journée de travail pour toi?
Alors c'est jamais la même chose. En ce moment, je fais beaucoup de rendez-vous pour le travail de commande. J'essaie de rencontrer beaucoup de directeurs artistiques, d'aller voir des agents, des personnes qui travaillent dans l'achat d'art. Mais je peux avoir des périodes de 8 mois sans rendez-vous parce que c'est des périodes où je fais de l'image. Donc ça dépend. Soit je suis pas chez moi et je fais des rendez-vous, soit je m'enferme pendant une semaine et ça sent la colle. J'ai pas du tout de journée type.
À Paris?
Oui.
Est-ce que tu penses que c'est important d'habiter Paris pour ce métier?
C'est la question que je me pose en ce moment parce que on a avec mon copain pour projet peut-être de s'installer en Bretagne et je me dis que j'aurais bien besoin de plus d'espace et de me rapprocher aussi des sujets qui m'intéressent, les algues, la mer, les stations biologiques, etc. Pour faciliter mon travail. À côté de ça, les galeries, les vernissages, l'actualité se passe ici. Et en même temps, comme je fais très peu de vernissage, je réseaute pas du tout, et j'ai beaucoup de mal avec ça. Je me dis que finalement, peut-être que ça me forcerait à venir quelques semaines par an et à faire l'exercice, oui. Parce que je serai là pour ça.
Oui, dans un temps et un espace-temps plus contraint, dédié à ça.
Exactement.
Justement. Oui, je comprends.
Parce que là, le fait de savoir que c'est possible, mais d'en avoir pas vraiment envie, ouais, finalement, ouais. Je le fais pas.
C'est difficilement compatible avec une vie de famille aussi.
Et c'est assez compliqué avec une vie de famille. Ouais. Et après, pour faire le lien avec le mentorat de Les Filles de la Photo, j'ai beaucoup plus de plaisir à... Enfin, je fais des vernissages depuis cette année, je vais au vernissage, parce que on est 5 lauréates et donc j'ai du plaisir à les retrouver dans ces moments-là. Donc,
il y a un effet de bande un peu.
Exactement.
Dans lequel tu te retrouves, ouais. Et ça facilite aussi...
Et donc je pense que c'est la première année où je fais autant de vernissages. Ouais.
Avec aussi peut-être un petit effet qui se coule en plus, qui est que vous êtes une bande de gens cool, puisque vous êtes les lauréates.
N'est-ce pas ?
Non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, quand tu vas faire Arles, que tu viens de gagner un prix en photo, bah
je te dirais.
Tu bombes le torse, tu vois. j'en rajoute à peine, mais c'est il y a quelque chose comme ça aussi. C'est plus simple. Finalement, t'as une actu. T'es pas plus personne, t'as déjà des copains.
Exactement.
Et en fait, c'est vachement plus supportable un vernissage quand on a 2-3 copains.
On se dit qu'au moins on vient pour ça et que s'il se passe rien à côté, il n'y a pas de déception, pas de frustration et on a passé une très bonne soirée.
Oui, tout à fait. Quand t'es pas seul avec ta frustration.
Ouais, et tes attentes.
Oui.
En disant comment je peux aborder cette personne autrement qu'en étant gauche.
c'est horrible.
Oui, c'est parce que ça pareil, ça s'apprend pas. Et je reviens sur ton année à Berlin, parce que c'est là où t'as commencé à dire, bon ben, je vais chercher des agents, c'est peut-être une piste à développer pour gagner du fric et trouver du boulot de commande, etc. T'es allé à la pêche aux agents toute seule.
Oui, et je me rendais pas bien compte, comme je connaissais pas du tout le milieu, de ce que ça voulait dire d'appeler 10 fois un agent en disant si, je vous assure, faut qu'on se rencontre.
Ouais.
Ce que je ferais pas du tout aujourd'hui. Je laisserais 6 mois s'écouler entre deux appels, avec cette naïveté qui m'a permis de pouvoir collaborer parce que j'avais pas les codes en fait, et ça m'a permis de rencontrer notamment Renate qui était pour moi aujourd'hui je me dis elle était sûrement intouchable, enfin si j'avais la connaissance du milieu que j'ai aujourd'hui,
ouais,
j'y serais pas allée,
tu vois. Pas, ouais.
Non, j'aurais pas allé.
C'est rigolo, alors qu'on aurait pu penser un peu le contraire, justement à se dire bah justement maintenant en connaissant un peu mieux comment ça se passe et en identifiant peut-être plus rapidement les personnes à qui parler, etc., ça peut se... Enfin, il y a un apprentissage, quoi, tu vois, il y a une méthode, peut-être, enfin, qui peut se...
Après, ça dépend du... Moi, c'était une période où j'étais capable de prendre mon book avec 3 projets à peine finis,
ouais.
Et d'aller voir des galeristes en demandant... maintenant, vous pouvez critiquer mon travail, que j'avance, il faudrait peut-être qu'on prenne rendez-vous.
Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus...
Et non, aujourd'hui, je ne ferai jamais ça.
C'est évidemment extrêmement impoli de le faire, en plus.
Évidemment.
Et c'est une catastrophe quand les galeristes ils voient arriver l'artiste avec son carton à dessin sous le bras. C'est le mot, c'est un cauchemar.
Ouais.
C'est...
Donc, tu vois, là, j'y repense et je me dis, j'ai le frisson de la honte qui monte en me disant, mais...
mais
avec ce... Et du coup, ce côté, tout est possible... j'ai tout à apprendre, à rencontrer tout le monde et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai eu mes premières opportunités.
Ouais, mais c'est important, je pense, de pas rester sur une idée de malaise ou de honte, etc. vis-à-vis de ça, parce que comment tu fais quand tu sais pas faire, t'es bien obligé de te lancer.
Oui.
À un moment, même manière la droite et gauche, mais en fait,
puis tout le monde là
passe par là, quoi. Je veux
tout
dire,
le monde là ce frisson de honte.
En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris. Je ne le reprends plus.
D'autant plus que ça, on en revient aussi souvent un peu à ce constat-là, c'est que ça fait partie des choses, des thématiques qui ne sont pas tellement abordées en école d'art, dans les formations artistiques. On ne te prépare pas à ces moments-là, à ces moments d'après, effectivement, où tu vas te retrouver tout seul ou toute seule avec un portfolio, avec des envies, mais...
En fait, on te prépare, nous, alors après, je pense que ça a changé, mais à Penningen, on nous préparait plus on nous préparait à faire de l'image, à travailler dur, à être exigeant, faire une facture, ça n'existait pas, la GSA, ça n'existait pas, la Maison des Artistes, jamais entendu parler,
ouais.
Les agents, jamais entendu parler. Donc, on était là avec beaucoup de fantasmes, je pense, tous à la sortie de l'école, mais avec peu de concret.
Ouais.
Mais pourquoi tu crois que, justement, il ne vous explique pas que la GSA, c'est important, qu'il faut savoir faire une facture? Ton avis, c'est quoi le... Il est où le problème? Parce que c'est un problème, hein, selon moi.
Oui, et je ne sais pas. Et là, j'aimerais être intervenante dans une école à la rentrée et je me dis que c'est des, tu vois, les premières questions que je vais demander à la direction de est-ce que c'est abordé, sinon pourquoi, comment on peut l'aborder, etc.
Ah, mais c'est hyper important.
C'est hyper important. Bon, c'est
la base.
Ouais, c'est la base.
Tu peux pas exister sans ça et travailler sereinement sans avoir ces ficelles-là.
Oui, et puis en fait, c'est aussi un peu ce qu'on défend avec ce travail-là, enfin avec le podcast qu'on est en train de faire, les émissions sur Twitch, c'est que en fait, c'est un métier. Que en fait, un métier, c'est enfin pour que ce soit un métier, il faut un numéro de série.
C'est un ensemble de choses.
Ouais, c'est pas juste des états d'âme, quoi. C'est pas, je suis un peu suicidaire. Non, artiste, c'est pas être un peu suicidaire. Je pense que c'est vachement important de le dire parce que il y a plein de gens qui pensent que c'est ça. Et donc, enfin, du coup, effectivement, apprendre à faire une facture, c'est l'étape 1. Monter ses statuts, avoir son numéro de tiré, aller à l'URSSAF ou ailleurs, enfin merde, le travail, quoi.
Mmh. Ouais.
C'est hyper important. Et,
et moi, je me souviens de, justement, pour le numéro de tiré, enfin, des premières démarches administratives, je me disais, mais vous êtes photographe, qu'est-ce que vous faites comme
mariages.
Photo et, exactement. Vous avez pignon sur rue, vous faites des mariages. En fait, je fais différentes choses. Je ne rentrais pas dans les cases. Mais pendant des années, j'étais. Mais en fait, quel intitulé j'ai. Mais moi, j'aimerais me raccrocher à quelque chose pour me présenter. Et je ne rentrais pas dans les cases.
Bah, sous une autre forme, ça rejoint ce que racontait Laure dans un autre épisode. Cette ambiguïté entre il faut à tout prix une étiquette pour rentrer dans un système, pour être identifiable et identifié, pour que les gens comprennent aussi rapidement ce que tu fais et ce que tu fais pas. Et puis en même temps, la nature même d'un boulot artistique qui peut, lui, être beaucoup plus transversal et qui ne répond pas nécessairement à une étiquette, à une case prédéfinie. Et ça, quand t'es créateur ou créatrice là-dedans, bah ça peut poser question. Enfin, ça fait partie... d'une phase du métier d'artiste. Je trouve que c'est important d'en parler, de recevoir différentes personnes pour justement étayer un peu ce propos-là. Digression faite à part. Très vite, est-ce que t'es passé par la case « je fais un boulot alimentaire » vraiment en dehors d'un champ artistique quel qu'il soit pour subvenir à ce que j'ai envie de faire, ou est-ce que assez vite, finalement, comme d'après ce que j'ai compris, t'as pu avoir du boulot de commande rémunéré, est-ce que t'as pas eu besoin de ça, ou enfin, comment ça se passe l'équilibre financier là-dedans?
Alors il est toujours en mouvement, mais en tout cas assez vite, je me suis dit que c'était quand même pas facile de travailler quand j'étais à Berlin en tant que serveuse, garder des enfants et avoir ce projet que je voulais développer, et que quand même si je pouvais trouver un lien entre la partie alimentaire et cette partie plus personnelle, ça serait peut-être plus facile pour moi à gérer. Donc c'est ce que j'ai développé. Maintenant, cette année c'est assez particulier parce que les clients que j'avais depuis plus de 10 ans qui faisait que j'avais cette petite sécurité ont changé de direction artistique pour un magazine ou pour des packshots, un groupe a été racheté. Donc en fait le même mois je me suis retrouvée sans boulot, donc là j'ai un peu paniqué et sans agent aussi, et donc là j'essaie de réinventer quelque chose parce que j'ai plus envie de faire les mêmes compromis. J'ai peut-être moins envie de faire du travail de commande. J'ai quand même envie de faire du travail de commande qui me plaît.
Ouais.
Et donc c'est pour ça que j'aimerais bien être intervenante, parce que j'aimerais bien transmettre des choses, être avec des talents émergents.
Ouais.
Là j'étais jury pour une école, j'ai trouvé ça, j'ai adoré. Et ça, ce serait mon nouvel équilibre financier de rentrée, ce serait de peut-être travailler deux jours en tant qu'intervenant. D'accord.
Et moi, par exemple, cette question-là, elle m'intéresse à fond sur les travaux de commande. Où tu mets le curseur entre ce qui est attendu de la commande et ce que toi, tu as envie d'apporter à la commande dans la façon d'y répondre. Est-ce qu'il y a, par exemple, des boulots où tu t'es dit « ça, c'est mort, je le signe pas ». Ok, je le fais, je comprends ce que vous voulez et j'ai besoin de pognon, donc ben, voilà votre truc, mais par contre, c'est sans moi. Ou est-ce qu'au contraire, tu as réussi à toujours être satisfaite des boulots parce que tu t'es dit « bon, ok, c'est pas tout à fait ce que j'imaginais, mais bon, j'y ai quand même trouvé mon compte, ça m'a quand même fait avancer, je suis contente d'avoir pu...
Souvent, j'ai réussi quand même à y trouver mon compte.
Ouais.
Après, il y a vraiment des boulots du pack-shot de shampoing. Mmh. Alors, je les fais rarement, mais évidemment...
Mais c'est encore traumatisant.
J'ai jamais re-regardé les images. Ouais, ouais, ouais. J'ai même pas de sauvegarde de ces fichiers-là. Mmh. Enfin, j'ai dit à mon agent, tu sauvegardes si besoin, mais moi, je veux pas les revoir. Et voilà. Et, mais après, tout n'était pas à jeter parce que c'est des moments où moi qui travaille seule, c'est des moments où on travaille en équipe, il y a des assistants lumière, il y a des personnes qui travaillent la technique qui est pas du tout mon fort. Mm-hmm. Donc j'apprends quand même beaucoup et puis c'est des moments où je suis entourée et ouais. C'est dynamique, on s'assoit pas de la journée, il y a quand même une relation avec le client, donc ça force à être à l'écoute même pour du shampoing, enfin ouais, ouais. C'est un exercice et ça je trouve ça intéressant. Mais en revanche les images voilà, je veux plus jamais les voir et,
ouais, ouais.
et mon nom n'est pas associé.
Non, mais ça fait partie. Moi, étant graphiste, je suis confronté à cette problématique tout le temps, qui est comment arriver à y mettre suffisamment de toi pour être fier du boulot qui sort. Enfin, c'est jamais quelque chose de très agréable. Donc c'est pour ça que je suis content de t'entendre là-dessus.
Tu veux, Marceau, nous parler de ton refus
pas du
catégorie
tout. Non, non, non. Non.
De travailler sur...
Tu as quelque chose à partager avec nous.
Peut-être que toi, tu veux parler d'une expérience récente aussi.
Moi, je sors d'une histoire avec un client, c'était terrible. Je peux pas en parler, mais genre, c'est horrible.
J'ai envie de savoir, tu
peux... Je te raconterai tout à l'heure.
J'espère.
Mais c'était pas cool du tout. Et voilà. Et puis récemment, j'ai demandé à Marceau de me faire un dossier au format A4. Et il a dit, je le cite, « Non mais, t'as pas besoin de moi pour faire du format A4. » Tu vois, il sait choisir ses clients. Lui.
C'est bon, pote.
Est-ce qu'on peut parler des concours et des résidences? Mm-hmm. Est-ce qu'il est trop tôt pour parler de ça?
Pas du tout.
Non, c'est bien.
C'est là-dessus que j'allais.
Les concours, les résidences, est-ce que tu fais des dossiers?
Alors, je commence parce que j'ai un premier projet qui est, selon moi, à peu près, enfin, pas terminé, mais qui est présentable et que j'ai développé dans le cadre du mentorat. Et donc, je commence seulement à lister les appels à la candidature, etc. et à y participer. Donc, j'ai pas de retour à vous faire pour l'instant à ce sujet.
T'as présenté beaucoup de choses là ou t'attends des réponses?
Non, j'ai eu beaucoup de noms déjà, et j'attends des réponses.
D'accord, d'accord, d'accord.
J'ai l'impression que c'est l'échauffement, tu vois, cette année, pour comprendre un peu comment ça fonctionne.
Je vois.
Par exemple, des candidatures sur lesquelles tu es aussi épaulé par Valérie, etc., sur comment présenter le boulot en vue de ce dossier-là?
Alors, pour l'instant, on en a parlé, mais on n'a pas eu le temps de vraiment faire le dossier parce qu'on était sur d'autres problématiques. Mm-hmm. Mais on s'est laissé deux appels à la candidature à la rentrée. Mm-hmm. Où là, je pense que j'aurai son avis et on pourra rentrer dans le détail.
Parce que je pense que c'est quand même vachement important aussi, d'autant plus quand tu te prends un refus. C'est-à-dire que faire un dossier tout seul dans son coin, le poncer à fond et te prendre un refus, quand t'es tout seul à te le prendre, ça peut être super violent. Et j'imagine que quand c'est des dossiers que t'as pu travailler avec un regard extérieur, avec un mentor, quel qu'il soit, encore une fois, Quand le refus arrive, je pense que tu peux aussi, t'as un peu une béquille, genre tu sais quand même ce que t'as fait, l'autre peut te dire non, t'inquiète pas, c'était oui, peut-être le mauvais moment, le mauvais endroit, il y a plein de raisons, mais ça remet pas en question tout le château de cartes, quoi, tu vois.
C'est sûr, et d'ailleurs les réunions qui reviennent tous les mois, que ce soit pour ce sujet précisément ou pour tout le reste dans le... quand t'es un peu seul et que le niveau d'angoisse monte, que ce soit pour un refus ou un autre sujet, tout de suite, toutes ces portes se referment et tu ressors légère d'une réunion avec Valérie et Marie où t'es valorisé, en fait. Mmh. T'as juste des professionnels qui te valorisent. Donc là, pour les appels à la candidature, en effet, les premiers noms que je me suis pris, pour Valérie, c'était pas un sujet. Ouais, c'était on va travailler les dossiers bientôt.
Ouais. Mais ça, c'est quand même hyper important, parce qu'encore une fois, quand t'es tout seul ou toute seule, etc., que tu sors d'études, avoir quelqu'un qui te dit non, t'inquiète, c'est pas grave.
Mais il y a aussi,
c'est assez opaque.
Il y a aussi une espèce de différence, comme tu dis, tu vois, toi, t'as le refus, et puis il y a Valérie qui dit non, mais en fait, on va bosser le sujet. Et il y a. Il y a une petite différence, c'est que, en fait, toi, tu mets tout ton cœur dans un dossier qui, en fait, va être regardé 20 secondes par quelqu'un parce qu'en fait, t'as présenté le mauvais dossier, t'as fait une petite erreur de casting, ça se voit dès l'intro, tu vois. Le dossier, il est pas bon ou le travail est pas pertinent dans ce... On parle pas de la qualité du travail, hein, mais le travail est pas pertinent dans ce cadre-là. Eux, ils cherchent un artiste qui serait... peut-être un peu plus connu que toi, un peu moins connu que toi. Enfin, il y a plein de, tu vois, il y a plein de trucs. Et toi, t'arrives avec cette naïveté-là, un peu nulle, du coup, en fait, moi, j'aimerais bien être là. Et en fait, le refus, il parle pas de toi.
Bien sûr.
Aucun cas.
Oui.
Peut-être il parle juste de à quel point t'es nul pour choisir les deux.
Parmi les
concours.
Les 200 possibilités de concours, ouais. Et de résidence.
Et à quel point t'évalues mal, en fait, ta place ou l'endroit où tu devrais être à ce moment-là. Et je trouve que c'est vraiment un peu le plus dur. Et en plus, vu qu'on est des crèves la faim, clairement, un chèque. Fait qu'on se sent capable de faire n'importe quoi. Donc, du coup, ça amène à un truc. Tu vas 10 000 balles, bien sûr. Moi, je vais photographier des pigeons pendant 48 heures. Puis, évidemment, tu vois. Et finalement, non, il y avait une erreur de casting depuis le début. Et c'est normal que tu ne sois pas pris, puisque, en fait, tu photographies des algues ou des... Enfin,
bien sûr. Et à côté de ça, il y a des dossiers qui sont plus aboutis sur les mêmes thématiques aussi. Il faut l'accepter.
Et en plus, il y a des salauds qui travaillent bien leurs dossiers.
Qui travaillent mieux.
Bon, mais c'est ça aussi. Et je trouve que le point de vue que peut avoir Valérie Cazin, d'autres, hein, sur ce milieu-là et sur ce qu'on est en droit d'attendre aussi quand on présente un dossier. Ça change tout. Mmh. C'est-à-dire que toi, la violence du refus, quelqu'un arrive et fait t'as pas été prise. Ah oui, ah, j'aurais pu te le dire. Tu vois, c'est un peu ça.
Ouais.
Et c'est important.
Et puis surtout de te dire, un dossier, ça peut se construire comme ça. Faut pas oublier ça. Je sais pas, faut légender tes images et pas juste mettre un texte explicatif. Enfin, en fait, des détails, mais on sait pas toujours. Jusqu'où faut, ce qu'on attend de nous. Et donc là, c'est aussi un regard de l'autre côté qui permet de donner des clés, une idée.
T'as déjà demandé à un copain qui a réussi un dossier, son dossier justement,
ouais. Pour le CNAP, ouais. Une des lauréates.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça très abouti. Après, présenté comme. C'est l'idée que je me fais d'une présentation de dossier, son projet était juste incroyable.
D'accord. Parce que moi, j'ai déjà demandé et on m'a refusé.
C'est vrai. Faut bien choisir ses amis, hein, tu sais.
C'est pas très sympa, toi.
Oui, parce que comme il n'y a jamais tellement de contextualisation sur le retour d'un refus.
Et tout est opaque, en fait.
Tout est opaque, voilà. Et ouais. C'est compliqué de se dire aussi, ouais, ok, je sais, il me manquait
ça. Un retour que quand tu l'as vu, c'est...
Comme ça. Ah oui, mais ouais. Comme il est rare, ce retour.
Tu peux le demander.
Oh. Moi, par ça, j'ai jamais eu de réponse.
Bah, tu l'as fait.
Moi, je demande systématiquement et la plupart du temps, je finis par avoir un rendez-vous téléphonique.
Ouais.
Faut pas lâcher, quoi. C'est
ouais,
tout.
Non,
tu vois,
raison,
moment,
c'est... Ouais.
Sinon, tu peux pas avancer.
T'avances pas, ouais.
Et ça fait chier parce que, autant que, des fois, c'est évident, donc tu demandes pas parce que, en fait, c'était vraiment une erreur de casting. Tu vois qui ils ont choisi. Moi, j'ai présenté, par exemple, avec Léa, on a fait un super dossier pour la Gacilly.
Ouais.
Tu vois, notre dossier était bien. Puis, on n'a pas été pris. On avait le seum parce que vraiment, même, on le trouve toujours bien, ce dossier. Puis, on a regardé qui a été pris. On a fait, ah oui, mais en fait, on est con. On n'avait rien à foutre là, quoi. C'était vrai, tu vois. Et donc ça, c'est évident. Mais si tu sens que il y a un vrai match, que ça pourrait le faire, que tu sens que le truc, il est pour toi, faut pas hésiter parce que c'est...
Il faut le retenter l'année d'après dans de meilleurs...
Pour retenter l'année d'après ou pour penser que tu vaux mieux qu'eux et puis plus jamais. Ça dépend où tu mets.
Ne me méritez pas.
Bah, toi de voir. Hein.
Ton boulot strictement perso, tu l'autofinances du coup. Hein. C'est ton travail de commande qui finance les heures ou les matériaux.
Plutôt les heures parce que j'ai pas encore assez de finances pour les matériaux. C'est la prochaine étape, j'espère.
Mais c'est comme ça que t'imagines le truc se passer. Quoi. Tu vas pas attendre un financement extérieur pour faire exister.
Pour l'instant, je suis contrainte par le temps, comme tout le monde, mais en tout cas, dans l'organisation de tout ça, j'ai plus de temps pour essayer d'aller chercher de l'argent. Mais ça fait partie des choses qu'il faut que je change, autant que les appels à la candidature, etc. Mais jusqu'ici, je l'ai pas fait.
Sarah, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, Sarah.
Gros bisous.
Bisous.
Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez suivre le projet Sans Titre sur Instagram en vous abonnant à sanstitre.cast. Un grand merci à la DAGP qui nous a accueillis. Vous pouvez suivre le travail de Sarah Brack sur son Instagram @sarahbrack. Générique par Olivier Chevergue.